Il est 21h, Sisters va bientôt débuter. Réunis autour d'une invitée, d'un projet, d'une association, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue au sein de l'équipe de Sisters, l'émission féministe de Prune.
I love London.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Sisters sur Prune 92 FM. On est le jeudi 13 novembre 2025, il est 21h et comme chaque deuxième jeudi du mois, on est en direct ou presque jusqu'à 22h pour une nouvelle émission engagée et sans langue de bois. Ce soir, l'équipe est réunie pour parler d'un, ou devrais-je dire du, bar, café, culturel, festif, afro, caribéen, LGBTQIA+, et amis. J'ai nommé la licorne noire, plutôt du quartier Olivette, cité des congrès. Laura, tu me diras si je dis des bêtises.
Tout est parfait pour l'instant.
Super. Un bar donc ouvert depuis le début de l'année 2025, mais surtout un espace de rencontre, de fête et ce que je considère comme un bar résistant, ou en tout cas engagé. Un lieu qu'on peut qualifier de safe ou safer. Et là, je vais citer une description que j'ai trouvée sur le compte Instagram du lieu. Un bar qui se dit « pensé par et pour les personnes queer se présentant comme un lieu de vie, d'échange et de rencontre pour les personnes LGBTQIA+, leurs amis, leurs enfants, leurs familles et toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs fondamentales, respect et inclusivité ». Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Laura, co-gérante donc de la Licorne Noire, qui est avec nous pour partager son parcours, son engagement et les coulisses d'un lieu un peu pas comme les autres quand même. Et si vous nous découvrez ce soir, bienvenue déjà, Sisters, vous l'avez compris, c'est votre rendez-vous mensuel sur Prune, une émission pensée par et pour les personnes minorisées de genre. À chaque numéro, vous l'aurez compris, une invitée, des questions partagées et une playlist 100% sans mixis parce que ça fait du bien. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va.
Donc j'ai fait une petite présentation, on y reviendra bien sûr. J'espère que tu me l'as déjà confirmé, mais je n'ai pas trop dit de bêtises. Je suis également accompagnée ce soir par l'équipe au grand complet pour cette deuxième émission de la saison 7. Comment ça va l'équipe ?
Ça va, la forme.
Oula. Ta voix, elle a craqué. Est-ce que ta voix, c'est vraiment la forme ?
Julia,
ça va,
ouais,
ça va
nickel. Tu es très loin. Pour ceux qui connaissent Prune, on n'est pas dans notre petit studio B habituel, on est dans le grand studio A, un peu plus grand, mais chaleureux. Mais tu es quand même avec nous.
Je suis dans ma bulle.
Et ça, c'est...
Arrête-toi, ça suffit.
Et ça, c'est chouette. écoutez, Sisters, émission 2, saison 7, let's go.
Sisters, c'est maintenant.
En guise de très courte introduction et afin de lancer mes collègues dans leurs questions respectives, je voulais poser une question là pour à peu près tout le monde ici. C'est quoi votre boisson préférée dans un bar que vous commandez le plus souvent ou que vous trouvez hyper bien, que vous commandez pas tout le temps, mais enfin voilà, si vous devriez choisir une boisson, qu'est-ce que c'est ?
Et déjà, je me permets, t'avais pas posé la même question quand on avait invité la plaisir ?
Non.
T'es sûre de toi ?
Je suis pas sûre.
J'ai l'impression qu'on a exactement la même question.
Et ben,
mais c'est une redite parce que nouvelle saison, donc on a le droit
on
de.
On a le droit de changer de goût.
Carrément. En fait. Bah moi je change pas depuis des années. Picombière, classique.
C'est vrai que t'avais dit ça. Ok.
Ça te parle maintenant.
Ça parle.
Et Picombière, il reste là.
Picombière pour Enora, Julia.
Moi j'en ai deux. J'ai la classique bière, voilà.
La Pils.
Enfin, c'est pas la meilleure, mais celle que je prends tout le temps. Et quand je veux me faire plaisir, c'est des mules, genre des petits cocktails mules.
Ah ouais.
Moscow mule,
Jamaican mule, London mule.
Ouais.
Ok.
Moscow mule.
Yes.
Tous les mules. Ok. Ça marche. Et Nora.
Yuna.
Je t'ai regardé trop dans les yeux en plus. Yuna, pardon.
Et moi, j'ai pas répondu comme un bon toutou qui répond qu'à son nom. Moi, c'est Ginto, toujours.
Ah ouais Ok. Ginto. Mais t'en commandes quand tu vas au bar c'est enfin,
Genre, si j'ai envie de boire de l'alcool, en général, je prends soit de la bière si je suis fauchée. Mais si j'ai envie de me faire plaisir, en vrai, Ginto, j'aime bien l'amertume.
Très bien. Laura, à ton tour, je vois que tu réfléchis.
Oui, alors moi j'aime le Monaco ou alors très simplement un Diabolo Kiwi.
Super.
Et toi, Romane ?
Et ben moi, c'est pareil, je ne sais pas choisir, donc je vais dire deux choses. Diabolo Violette. Voilà, blonde, pareil, bière blonde. Après, j'aime beaucoup d'autres choses, mais c'est quand même les deux trucs que je prends le plus. Donc voilà, ça pique quoi, des petits trucs avec des bulles. Et ben voilà, une fois que ma question est lancée, je crois que c'est au tour de Yuna de commencer à poser des questions à Laura.
Oui, et bien Laura, déjà bienvenue. Quel est ton parcours? Est-ce que tu as toujours été barmaid?
Absolument pas. J'étais enseignante jusqu'à il y a 2 ans. J'enseignais en lycée professionnel, j'étais professeure de lettres et d'histoire-géographie. Voilà.
Ok. Et du coup, pourquoi l'idée d'ouvrir un bar? Qu'est-ce qui t'a donné envie quand vous êtes co-gérante? Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie ou motivé?
Avec Émilie, oui, beaucoup de choses. Alors déjà, on est arrivé à Nantes il y a à peu près 4 ans, puisque on vivait à Paris jusqu'à présent. Moi, je suis de région parisienne. Et en arrivant à Nantes, on a eu envie de se poser un peu. On avait un petit garçon qui avait 2 ans à l'époque, et il s'agissait pour nous de revoir un peu tout notre parcours. Et j'avais encore envie d'enseigner. Quand je suis arrivée à Nantes, j'ai enseigné d'ailleurs pendant 1 an. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin de vivre autre chose. Puisque avant d'enseigner, j'ai fait plusieurs métiers. L'enseignement est venu sur le tard, j'avais une 30aine d'années. Et à la faveur, en fait, d'un festival, le Desert Festival. En rentrant de ce festival avec Émile, on a beaucoup discuté. Et m'est venue l'idée de créer un lieu. Alors, ce n'était pas encore défini, puisque ouvrir un bar, tenir un bar, c'était quelque chose qui était pour moi de l'ordre de l'impossible, puisqu'il s'agissait d'avoir des connaissances en termes de gestion, de services que je n'avais pas, Émilie non plus. Mais créer un festival, c'était quelque chose qui me semblait être à notre portée à toutes les deux. Et puis, de discussion en discussion, je me suis rendu compte que le festival, c'est bien, mais c'est quelque chose qui est ponctuel et qui allait demander une année de travail pour 2-3 jours. Là où j'avais l'impression, en tout cas, c'était valable pour moi et pour Émilie, qu'il était nécessaire, en fait, qu'il y ait un lieu pérenne. J'ai dit qu'on venait de Paris et donc moi toute, je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne et que j'ai commencé à sortir, j'allais à Paris dans une boîte de nuit qui s'appelait le Pulp, qui a été la boîte de nuit dans laquelle j'ai commencé et j'ai surtout pensé ma lesbianité. Et quand cette boîte a fermé en 2006, on s'est retrouvés quand même très nombreuses orphelines. Alors après, il y a eu des collectifs qui se sont montés, il y a eu beaucoup de soirées qui ont été créées, mais c'était toujours dans des lieux divers de parisiens. Et quand on est arrivé à Nantes, alors il y avait Plaisir qui venait tout juste d'ouvrir, c'était en 2021. Mais on était avec Émilie dans un entre-deux de nos vies, puisqu'on était devenus mères. Et il s'agissait pour nous de pouvoir articuler en fait toutes les facettes de nos identités et de nos vies, notamment parce que on avait vécu les 2 premières années de notre enfant de façon assez particulière, puisqu'il y a eu le Covid quand même, donc on a passé sa première année, il avait 8 mois enfermé, ce qui a été très compliqué à vivre et pour lui et pour nous et pour des millions de Françaises et Français. Et quand on est sorti et qu'on avait envie de sortir, aller dans des bars, boire des coups, il n'y avait pas de place pour nous. Fallait changer Anatole dans sa poussette. Enfin, c'était juste impossible. Et quand on vient de mettre un enfant au monde et qu'on a envie de revivre sa vie de femme et que, en fait, l'espace ne nous est pas laissé, ça peut vite devenir quelque chose de très, très pesant. Donc moi, j'ai vécu après une dépression postpartum parce que j'étais enfermée avec mon bébé et ma conjointe pendant 3 à 4 mois. Ensuite, quand j'ai recommencé à travailler, c'était dans des conditions qui étaient franchement... Enfin, il y avait de quoi être complètement folle, quoi. Et donc, au bout de cette année, on a décidé de partir et de rejoindre Nantes. Et c'est là que la question s'est posée de savoir... qu'est-ce qu'on allait faire des prochaines années.
Okay. Voilà. Bon, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de l'identité de la licorne noire? Là, du coup, tu nous as parlé un peu de comment l'idée est émergée, pourquoi la licorne noire, comment vous avez défini ce lieu toutes les deux, qu'est-ce que vous vouliez faire émerger là-dedans?
Alors, plusieurs questions. Bon. Déjà, je veux revenir sur le choix de la ville de Nantes. Je suis une femme noire, Émilie est blanche, on a un petit garçon qu'on va qualifier de métis, puisque le donneur est blanc. Et donc, comme je l'ai dit, moi, je suis née à Paris, j'ai vécu mes 38 premières années en région parisienne. Et quand s'est posé la question de savoir dans quelle ville on allait déménager, s'est posé la question pour moi aussi de la ville la moins pire, la moins raciste. Émilie vient du sud de la France, qui est une très belle région dans laquelle on passe de très belles vacances, mais c'est invivable. Voilà. Et donc Nantes, parce qu'on y venait régulièrement voir un ami, et aussi parce que il m'a semblé qu'il y avait un début de travail concernant l'histoire de Nantes et son passé négrier, puisque c'était quand même le premier port négrier, et qu'il y avait aussi la présence de personnes afrodescendantes.
Okay. Et par rapport, par rapport au lieu de la licorne noire, est-ce qu'il y a une raison dans le choix du lieu, de l'emplacement?
Oui, absolument. Bon, une fois qu'on s'est installé et qu'on a pris nos marques dans la ville, on s'est très vite rendu compte que énormément, enfin, je ne peux pas quantifier là en pourcentage, mais la majorité quand même des bars sont à commerce. Dans ce que j'appelle le centre-ville moyenâgeux.
Je crois que j'ai la vision un peu.
Parce qu'il est pas pensé pour les gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des poussettes, qui ont un handicap, enfin voilà, juste les gens dans leur diversité. Et donc ça c'est d'une part il y avait cette question-là de l'accessibilité et il y avait aussi la question des locaux. Les locaux donc, vont de pair avec le maillage des rues. Donc, ce sont des locaux qui sont anciens, pour lesquels il est impossible, voire très difficile, ou ça va coûter extrêmement cher de les rendre accessibles pour entrer, pour avoir accès aux toilettes. Donc, on s'est tourné vers un quartier qui nous plaisait bien, celui des Olivettes, en espérant, en croisant les doigts, qu'il y ait un bar, qui soit un fonds de commerce qui soit à vendre. Et on a cherché quand même pendant plus d'un an, jusqu'à ce que notre agent IMO nous dise, voilà, j'ai une affaire, c'était pas un bar, c'était une cave. Et je pense que ça vous conviendrait parfaitement, puisqu'il répond à tous vos critères, notamment, le principal, c'était qu'il fallait que ce soit accessible, d'une part, et d'autre part, qu'il soit assez grand pour qu'il puisse accueillir, en fait, toute la diversité de la clientèle qu'on attendait.
Ok. Bah, j'en profite. Effectivement, quand on s'y est rendu pour notre réunion de rentrée toutes les quatre début septembre, et du coup, on l'a trouvé très beau, etc. Enfin, sans vouloir en faire des caisses, mais très très bien aménagé. Julia habitait dans le quartier il y a quelques années, donc elle a pu voir la différence avec la cave d'avant.
Et un peu plus de
complètement. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus accessible. C'est tout à fait le mot.
Et effectivement, je voulais revenir sur l'aspect famille en fait que j'ai introduit tout à l'heure et que vous présentez en fait dans votre compte Instagram. Enfin, notamment, j'ai repris l'une des premières publications.
Oui.
En fait, il y a un espace un peu dédié aux enfants.
Absolument. C'est l'espace des enfants.
C'est ça. Et en fait, j'avoue que c'est à ce moment-là où je me suis fait la réflexion de. Bah en fait, alors j'ai pas d'enfants, donc peut-être que je vois moins ce. Je vais moins dans. Je vais pas chercher effectivement à me rendre dans des lieux qui sont accessibles aux enfants ou qui sont avec un espace dédié. Mais ça a été une vraie volonté. Enfin, quand vous avez imaginé l'architecture ou la conception, c'était important.
Oui, absolument. Il fallait que notre fils puisse être là avec nous et que les familles. Enfin, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'ai fait une dépression postpartum. C'est important d'avoir un lieu dans lequel on peut sortir, on peut se poser. C'est peut-être le seul quart d'heure qu'on a dans la journée avec son enfant. Donc c'était une nécessité, enfin, il devait y avoir un espace pour les enfants, un vrai espace et pas juste un petit coin, c'est le leur.
J'avais une autre question aussi, parce qu'on s'est eu en off pour préparer l'émission.
Oui.
Je me souviens que tu m'as dit, alors je m'embourbe un peu dans mon cerveau, mais quand je t'ai dit comment je percevais le bar, c'est-à-dire, moi je crois que j'avais juste dit bar queer.
Oui.
Et tu m'avais dit, ah c'est marrant parce que c'est pas tout juste ça, enfin, il manque quelque chose. Donc oui. Là du coup j'ai rajouté, j'ai pris la bio Instagram, je me suis dit il n'y a pas mieux. Et quelle différence tu fais avec d'autres bars queer qui existent, enfin, est-ce que tu peux repréciser peut-être l'identité de afro-caribéen, festif, enfin,
qu'est-ce que j'entends par là?
Ouais.
Ben justement, je parlais tout à l'heure de facettes. Je pense que on est composé en fait de différentes facettes. Et moi, je viens ici et je suis une femme, je suis noire, je suis mère. Et tout plein de choses. Et ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est tout ça en même temps, tout le temps. Donc après, pour la question de queer. Oui, non. Il était question des LGBT et queer. Je crois que c'est une question de définition, je crois que c'est une question de positionnement aussi. Moi, je me définis comme lesbienne. Et j'entends et je comprends tout à fait que les personnes se définissent comme queer. Et ce dont on a envie avec Amy, c'est de pouvoir laisser la possibilité aux gens de pouvoir se définir par elles-mêmes. On est d'une génération aussi où c'était lesbienne ou gouine, hein, pour se définir. Et parce que j'ai 41 ans. Et le terme queer, c'est un terme qui est apparu assez, entre guillemets, assez récemment, si je dis pas de bêtises, peut-être 2010. En tout cas, moi, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, c'était pas utilisé.
Mm.
Voilà. Ça l'est aujourd'hui. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se définissent et surtout qu'ils comprennent qu'ils ont leur place, en fait, chez nous. Voilà. La question de l'identité afro-caribéenne, ça définit simplement le fait que qu'on est un peu plus que des Antillais, à mon sens. Le terme Antilles, il a été utilisé pour quelque part adoucir le caractère encore colonialiste, hein, qu'il y a dans Guadeloupe, Martinique. Ainsi qu'à Mayotte ou en Guyane. Et moi, je me définis aujourd'hui comme étant caribéenne. Et donc, ça englobe aussi bien la Caraïbe française qu'espagnole, néerlandaise, anglaise. Enfin, on a une histoire en commun, voilà, qui est beaucoup plus large que la seule histoire des Antilles françaises.
J'avais une dernière question, désolée, il y a plein de trucs qui me viennent. Ça va, je ne monopolise pas trop la parole. J'avais une autre question. Là, on repart sur la question du début de Yuna, un peu ton historique et votre historique à deux. Du coup, tu disais que tu n'étais pas du tout du métier, etc. Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que, je ne sais pas, vous avez suivi des formations? Parce que vous faites des cocktails.
Alors, moi, on se sépare le travail. Okay. Je suis plus cérébrale. Du coup, j'ai fait une formation en gestion de l'entreprise, comptabilité, ce genre de choses. Et Émilie, elle, a fait des extras, a travaillé en intérim et a fait une formation pour apprendre à faire des cocktails. Et elle a passé beaucoup de temps aussi à travailler seule et à faire des cocktails à l'appart. Du coup, voilà.
Oui.
Du coup, tu disais que vous aviez mis un an avant de trouver le lieu où vous êtes actuellement.
Oui.
Du coup, ça veut dire que ce projet, ça faisait combien de temps qu'il mûrissait dans vos têtes?
Il a commencé à mûrir en juillet 2023.
Ok.
Pour une ouverture en... Donc, j'ai pas dit de bêtises, tout à l'heure, j'ai dit début 2025.
Pour une ouverture le 1er mars 2025 et on a signé au mois de décembre 2024. On a acheté le fonds de commerce en décembre.
Et est-ce que ça a été une difficulté? Là, c'est pareil, je joue sur des gros clichés, mais je me dis... parce que, bon, alors c'est aussi parce que je l'ai déjà entendu, mais le fait d'ouvrir un commerce, enfin de racheter un fonds de commerce, est-ce que votre identité fait que ça a pu être un obstacle Je sais pas, auprès des banques ou auprès alors, des...
Non, mais la question est très intéressante et je vais te dire pourquoi. C'est parce que Émilie et moi, on est des femmes cis, entre guillemets, bien sous tout rapport. J'étais enseignante, elle était dans l'image. On a monté ce projet en partie parce qu'on avait un apport financier qui était conséquent. Et donc, on parlait d'enfants, d'espace enfant, ce genre de choses. Donc, on a laissé la présentation. Voilà. Et une fois qu'on a eu le prêt, ben on a fait ce qu'on voulait.
OK. Ça marche. C'était un peu réfléchi. Enfin, ça, pour éviter peut-être un écueil ou trop de questions, il y avait un peu cette idée de peut-être...
Mais bon, c'est le monde
pas trop en dire quoi.
L'idée c'est d'être financé. La banque aimerait s'y retrouver.
Ouais, il est trop bien.
Voilà. Ça. Donc il a fallu.
J'adore.
Juste, mais c'est comme pour tout. Mmh. On raconte une histoire.
Et comment vous vous sentez dans le quartier? Là, ça fait pas encore un an, mais ça va pas tarder. Enfin, quoi que. Oui, ça fait, on va dire, 7 mois.
On est dans le 9e mois.
Dans le 9e, voilà.
Oui.
comment vous vous sentez?
On se sent bien et ce qui est important surtout pour nous, c'est que la clientèle se sente bien. Ça, c'est hyper important. Le fait que, chose que je n'ai pas dite aussi, le fait de se retrouver du côté de la CD Congrès, pas des quartiers des Olivettes, ça fait quand même, on est le seul bar, on a un bar d'angle. Et c'était essentiel pour nous que les personnes qui se rendraient les Cornes Noires se sentent en sécurité, puissent se poser tranquillement en terrasse. Sans être mal regardé, voilà. Parce que c'est des choses qu'on a vécues quand on était à Paris, on a vécu des agressions, des choses, voilà. Donc, on avait envie vraiment que les gens puissent se vivre pleinement, à la lumière du jour, ou pas, si ils ont besoin d'entrer. Ça aussi, ça a été pensé, on a mis des rideaux et tout.
Oui,
ouais, on est plutôt, je pense, bien installé.
Merci. Non, t'as une question.
Et oui, juste avant de faire une petite pause musicale, on a parlé du parcours, du lieu, mais le nom. Pourquoi la licorne noire?
La licorne noire, c'est une référence. Enfin, c'est plus qu'une référence, même. C'est le titre d'un poème et d'un recueil d'une poétesse pour laquelle j'ai un amour immense, Audre Lorde, qui était donc une poétesse. Américaine d'origine caribéenne, c'est pas en venue de la Grenade. C'était une femme lesbienne, mère, guerrière, puisqu'elle a été atteinte d'un cancer du sein qui. Il y a eu une rémission et puis après il y a eu un autre cancer et elle en est morte. Et dans ce poème, il est question donc d'une licorne noire qui en fait est déplacée de par des pays froids et qui vit très mal sa captivité, son arrachement à son territoire et qui ne souhaite qu'une chose finalement, c'est d'être libre. Et donc c'est toute l'idée, c'est permettre aux personnes qui viennent à la Corne Noire de pouvoir exprimer toutes les facettes de leur personnalité en toute liberté et en toute quiétude. C'est ce qu'on essaye.
Mais le message, il est trop beau, ouais, carrément. Mm-mm.
Merci pour cette première partie d'interview. On fait une pause avec... Est-ce que tu peux redire le titre?
Oui, tout à fait.
Sélectionné par Laura.
Ouais, on va écouter Let Me Be Great de Sampa the Great et Angélique Kidjo.
It's only at the shines. Many men led to their own devices. Tell the story, living at the crisis. Baby, serving Quite shocked to be divorced. The hunter should be looking at my balls. I'm lying, I'm king, man, I'm bros, I'm feeling it. But the course of what is the cost, I'm healing. I'm dealing with my heroes, all shitting on my floors. When I was younger, you was on my goals. Now it's replaced this. There will never be another me, nigga. So I figure I could call my own past story. I'm an exhibit on my name. I'm Sammy, I'm Timbo, I'm Eve, I'm Shumba, I'm great. Remember when you doubt and fear, you had your voice in a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Young Tumbleweed. Ever and ever, ever and ever, ever and ever. I'ma be great. Hey, you can never fail. Where even when you fall, you prevail. And you can never lessen with the lesson. And I've been pressing, so it's not about impressing, I'm expressing. And every path I pay, still stressing. What Simon said, stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books, singing Tupac books, still ignoring the fact that the queen ain't boring. So that you can conquer any hill. That's how I feel, that's how I feel. My vision, I'm impeccable. Every strength gained, every stage detectable. Look into the future, full vision, no spectacle. It's legacy, it's what I see. Remember when there's doubt, fear. You would have your voice in a song in your ear. You can time travel any month, any year. You're the greatest, yeah, I told you, cause it's what you need to hear. Yeah, I'm gonna be great.
C'était Let Me Be Great de Sampa the Great et Angélique Kidjo. Vous êtes toujours sur Prune, 92 FM avec Sisters. Et on interview Laura de la Licorne Noire. Du coup, moi, Laura, j'avais une petite question pour toi.
Oui.
On va plus parler économie, récession, crise économique, etc. Dans le sens où je me demandais, dans le contexte actuel, qui est, on va être honnête, qui n'est pas foufou pour tout le monde. Niveau économie, joie de vivre, enfin joie de vivre, non, ça dépend en vrai, mais on va dire que voilà. Enfin, moi, j'avais une vraie question sur le fait que, est-ce que, en tant que lieu festif et culturel,
oui.
Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a toujours autant de gens ? Au contraire, il y a plus de gens parce que tout le monde a envie de faire la fête et tout le monde a envie de se sentir bien. Est-ce que les temps sont un peu durs parce que on n'a plus de sous en fait ? Est-ce que il y a des choses qui ont été annoncées, je sais pas, des réformes ou des choses mises en place aussi par la ville ou enfin voilà par des contextes on va dire locaux qui font que ça vous impacte en fait ou pas du tout.
Alors la Licorne Noire est dans son 9e mois, donc avoir une réflexion poussée sur le sujet économique est un peu délicat, mais enfin je vais pas me dérober, je vais répondre à la question autant que je peux. En m'appuyant sur ce que l'on a constaté, les gens ont envie de s'amuser. Maintenant, comment ils s'amusent? Quels sont les choix qu'ils font? Premièrement, les gens ont envie aussi de penser, de se relier les uns aux autres. À nouveau, comment ils le font et où? On a voulu, j'ai voulu, avoir une forme de politique culturelle, puisque c'est un café culturel et un bar festif, et que la Licorne Noire est là pour que l'on puisse penser, célébrer, donc penser, se penser, penser le monde, se célébrer, célébrer nos identités et nos vies, boire et grignoter. Pour un bar, quand même, c'est intéressant de voir que ça arrive en troisième et quatrième position. Et il s'avère que cette question culturelle, la façon dont je la pense, je ne sais pas, je crois que ça... Il y a des événements qui fonctionnent très bien, d'autres pour lesquels on a très peu de monde. Et je pense qu'il y a un lien avec tout simplement une atmosphère dans le pays, mais dans le monde également. Il y a une forme d'apathie généralisée. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Je ne sais pas que les gens sont défaitistes, mais quand même, il y a une forme d'atmosphère un peu qui me donne l'impression que la question culturelle, c'est plus un combat. Je vais vous donner un exemple. Le planning familial des Pays de la Loire donc s'est vu supprimer la totalité de ses subventions. Et on a fait un événement voilà, au début du mois de juillet en demandant à deux DJ qui ont très gentiment accepté de venir mixer gratuitement. Et donc, on avait donc annoncé qu'on reverserait la majorité des recettes de la bière blonde. Et en fait, on n'a pas pu verser grand-chose, puisqu'il n'y a pas eu tant de consommation que ça. D'un autre côté, on voit à Nantes des structures qui réussissent à faire lever des foules pour, j'allais dire, pas de sujet, enfin, autre que on vient se divertir. Donc, ça nous fait beaucoup réfléchir, ça me fait beaucoup réfléchir. Et je me demande si finalement, ce qui concerne la pensée finalement et le fait d'être face à soi-même, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse ? Puisque quand il y a un DJ set, le bar est plein à craquer. Donc oui, c'est un grand sujet de réflexion. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Qu'est-ce qui les attire? Et donc, qu'est-ce qui les amène à consommer? Et qui nous permet de pouvoir continuer, mois après mois. Voilà.
Bah, du coup, ça fait une belle transition vers moi, mes questions qui étaient plutôt à l'endroit de la programmation. Je trouve que tu as fait un très bon virage vers ça. Quand on regarde votre programmation depuis l'ouverture, ça a été en effet beaucoup d'événements musicaux avec des DJ sets, des concerts. Mais on voit aussi, enfin moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de lectures aussi. Ça avait une place assez importante dans le lieu. Et notamment aussi des ateliers qui ont pu se mettre en place depuis la création. Et j'avais une question, donc, est-ce que c'est vous, à deux, qui faites la programmation? Est-ce que vous vous faites aider par une personne tierce? Est-ce que vous avez aussi des sollicitations? Enfin, j'avais une vraie question sur la programmation du lieu.
Oui, alors, je suis seule à la faire. Quand on a ouvert, j'étais aidée d'une amie qui s'appelle Camino, qui est DJ La Diabla. Et depuis le mois de juin, je fais tout seul.
Et comment tu sélectionnes Alors, c'est vraiment tes goûts. Est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais avant, est-ce que tu essayes de dépasser peut-être toi ce que tu aurais aimé voir dans ton bar pour essayer de ramener des gens ou en tout cas d'élargir tes
horizons. Oui, non, justement, je crois que je suis trop entière pour ça. Et on pourrait hein, faire ce choix de penser uniquement à la question financière, mais voilà, on a 40 ans toutes les deux. On avait envie de monter ce projet, on avait envie de défendre des valeurs. Franchement. Et quand on s'est dit, OK, on y va, on s'est dit, cet argent est investi. Il y a une probabilité importante, on ne sait pas, hein, qu'on ne le revoie pas, que ça ne fonctionne pas. Mais on l'aura fait.
Jusqu'au bout, quoi.
Enfin, pas, jusqu'au...
On ne sait pas où, mais jusque tout entière, quoi.
Absolument. Ouais. Et ça, c'est une chose qui... Comment dire, qui me guide depuis toujours. Je dois faire les choses. Je pense que j'ai une part à prendre et je la prends. Puis en même temps, enfin, quand on regarde mon profil et mon parcours, j'étais enseignante en lycée professionnel, j'aurais pu enseigner en lycée général. Je suis allée en LP, c'était loin d'être facile. Mmh. Mais je viens d'un quartier populaire et je suis une fervente pratiquante de l'éducation populaire. Voilà, donc ça ne pouvait pas se passer autrement. Quitte à faire moins d'argent, l'idée, c'est de transmettre.
Parce que du coup, pour faire un lien sur l'économie des événements, est-ce que c'est des événements qui sont à prix libre? Est-ce que vous avez des billetteries? Comment vous fonctionnez
Non, c'est gratuit.
Ok, donc tout est gratuit. Oui. Ok, trop bien. Franchement, c'est rare à Nantes d'avoir des lieux encore qui proposent...
Oui, mais voilà. C'est gratuit parce que, ça, on ne l'a pas développé, mais la question, le bar. Le bar, c'est un lieu où les gens vont boire un coup, vont se rencontrer, mais ça peut aussi être, à mon sens, un lieu de partage, d'échange, mais aussi où on peut s'ancrer. Et le fait de permettre à ce qu'il y ait des rencontres littéraires gratuites, ça fait qu'il y a des personnes, en fait, qui, pour tout un tas de raisons, et qui sont liées notamment au fait que quand on vient d'un quartier ou d'un milieu populaire et qu'on n'a pas eu accès à la littérature, ou juste simplement parce qu'on a une appréhension, on ne va pas dans une librairie pour écouter un auteur ou une autrice. Il y a plein de choses, en fait, qu'on ne va pas faire parce qu'on va se mettre des freins. Et là, les gens, ils sont plein de gens, parfois, ils sont là. Ah, mais j'étais pas au courant qu'il y avait une rencontre, c'était trop bien, j'étais venue boire un verre. Et c'est ça l'objectif.
Mmh.
Voilà. Donc, je parlais de guerre culturelle tout à l'heure, c'est ça, avec les moyens qu'on a. On n'est pas Bolloré, etc. Mais ça commence par ça, finalement, je pense.
Et ça rejoint toute l'idée d'accessibilité que tu disais au début, en fait, d'accessibilité du lieu par le fait que c'est accessible, par exemple, aux personnes en situation de handicap, aux familles, etc.
Oui.
Mais c'est aussi, du coup, accessible à tout budget, finalement,
oui,
et aux personnes qui peuvent être éloignées des événements culturels.
Tu as 1,50€, tu bois un sirop. Même si tu n'as pas 1,50€, il y a de l'eau qui est à disposition et tu t'installes et tu écoutes. Enfin, voilà, et il y a des livres qui sont à disposition, qui sont empruntables.
Parce que moi, en fait, je ne sais pas, on n'en a pas parlé avant, mais comment vous, l'équipe, vous avez découvert le lieu? Mais moi, j'en ai entendu parler pour la première fois via la Ballroom Scene de Nantes, parce qu'il y a un événement qui avait été organisé à la Licorne. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment une curiosité assez énorme de me dire qu'à Nantes, on pouvait trouver un lieu comme ça, avec une programmation hyper diverse. Et surtout, on peut trouver des artistes qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Il y avait aussi beaucoup ça. Enfin, moi, c'est beaucoup les retours que j'ai eus de camarades et collègues de se dire est-ce qu'on regarde toutes les programmations de ce qui se passe quoi ce week-end et on est toujours hyper surprise de voir qu'en fait, il y a des noms qu'on. Parce qu'en fait, à Nantes, il y a aussi cette chose que dans les bars, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Et je trouve que vous apportez une fraîcheur, en fait, dans les programmations culturelles. Et ça fait super plaisir. Donc, je voulais dire merci, dans tous les cas, dans un premier temps, pour ça. Et j'avais aussi une question en lien avec la programmation.
Pardon, c'était l'idée aussi. Hein. J'avais envie de. Que simplement, ce que moi, j'aurais pu faire si je n'avais pas fait cette folie d'ouvrir le bar avec Émilie. Sauter dans un train, aller à Paris, parce qu'on en avait les moyens. J'avais envie que ça soit accessible à tous. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des personnes comme Amandine Gay qui viennent. Mais Amandine, je ne l'ai pas contactée. C'est elle qui a demandé à venir.
Ok. Parce que c'était aussi une question. Est-ce que c'est... tu as beaucoup d'entrants ? En fait, est-ce que toi, dans ta partie programmation, tu vas beaucoup chercher ou tu as aussi beaucoup, finalement, de personnes qui te sollicitent pour être programmées à la licorne ?
Alors, les sollicitations, elles viennent principalement des artistes, musiciennes, musiciens. Et après, les autrices, je vais les chercher. Mais la première, par exemple, c'est Fania Noël, qui est venue au mois de mai dernier. Et Fania, j'ai profité du fait qu'elle était présente en France en septembre 2024. Donc, on savait qu'on allait signer, qu'on allait trouver un local. Et clairement qu'elle nous prêtait l'argent. Et donc, elle participait aux 10 ans de Moissy, collectif féministe dans lequel elle a milité. Et donc, j'ai pris un train. J'ai fait un aller-retour Paris-Nantes. Donc, je suis allée l'écouter pour présenter son nouveau livre, Des questions sur le féminisme noir. Et je suis allée la voir à la fin pour signer mon petit livre, un petit autographe de Fania Noël. Et là, je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé de ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, est-ce que vous voudriez bien venir ? Et elle m'a dit, est-ce que vous faites des cocktails ? J'ai dit oui. Elle m'a dit d'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a enclenché quelque chose. Elle est très amie avec Laurent Safou, et ainsi de suite. Et puis après, les gens, je les approche aussi en leur faisant un petit message, en disant, voilà, voici le projet, voici ce que j'aimerais faire. Est-ce que vous accepteriez de venir parler de votre roman ? Ou de vos œuvres, et les gens acceptent parce que tout se passe à Paris, en fait. Mmh. 70% des livres qui sont vendus en France, enfin, dans l'Hexagone, sont vendus en région parisienne. Et c'est donc... voilà, c'est aussi un bon moyen pour ces personnes de pouvoir être connues, être entendues et échanger avec des lectrices et lecteurs qui ne sont pas à Paris. Alors après... Je ne dis pas, la négociation, la discussion avec les maisons d'édition est un poil plus complexe parce que envoyer une de leurs autrices dans une grande librairie, c'est une chose. Dans un café-bar, même s'il y a écrit café, les gens voient bar d'abord. Mmh. Donc là, c'est plus compliqué, mais enfin, on y arrive.
Mais en plus, du coup, vous créez des connexions parce que nous, on a déjà invité l'année dernière Solange, qui est venue faire la modération. Et en fait, moi, c'est aussi quelqu'un que je vois très régulièrement et ça a été un plaisir pour elle. Enfin, elle sentait vraiment chanceuse de venir et d'avoir l'opportunité de faire de la modération sur cet événement-là. Et je pense que vraiment, en fait, il y a un engouement et une joie partagée par les personnes, enfin dans tous les cas moi dans mon cercle,
dans mon petit cercle
de personnes queer, où vraiment enfin ça fait plaisir d'avoir la licorne noire à Nantes et d'avoir une programmation comme ça. Et du coup moi l'autre lien après en dehors de la programmation, c'était un peu en lien avec la manière dont vous communiquez, donc l'Instagram par exemple qui est assez alimenté fréquemment avec les événements. Et il y avait une question, peut-être Romane, tu peux reprendre la main sur ça, parce que c'est toi qui avais noté.
Je vais reprendre la main. En fait, effectivement, je vous suis sur Instagram, et j'avais vu, alors c'était une story, donc c'était assez furtif, il y a quelques semaines, voire quelques mois,
oui.
Où en fait, vous faisiez écho que Instagram supprimait ou invisibilisait...
Alors Instagram a refusé de...
Ou refusé de publier. Oui, certains contenus,
c'était une manière publicité.
C'était une publicité.
Oui, pour l'avenue d'Amandine Gay.
Et les raisons étaient...
Elle a été refusée, tout comme avait été refusée la publicité pour l'avenue de Fania Noël.
Et est-ce que tu sais, alors leurs arguments, on va dire qu'évidemment, ça n'a pas l'air d'être très valable, mais...
Je pense que comme tout le monde, je suis envoyée vers une page qui dit à peu près tout et rien. Hein, ouais. Et en fait,
pas plus, quoi. Et ce qui n'a pas empêché qu'effectivement c'était méga plein pour Amandine Gay, moi j'avoue que j'avais hésité, je me suis dit tiens, et en fait j'ai vu que c'était écrit complet, c'était sûr.
Oui.
Mais quelle réaction tu as eue ou vous avez eue en voyant ça, enfin, qu'est-ce que...
Mais je ne suis pas étonnée.
Ouais. Ok.
À partir du moment où on met en avant un propos qui va à l'encontre... d'une certaine politique. Instagram, c'est Meta. Mm.
Oui, c'est Mark Zuckerberg.
Mais bien sûr, mais c'est vrai que ouais.
Ce que je trouve fou, c'est que, enfin, on est quand même, enfin, c'est quand même des réseaux sociaux qui sont vraiment, enfin, en tout cas, qui paraissent si peu contrôlés pour des certains
oui,
contenus
non, mais oui.
qui sont publiés.
Oui.
Et à la fois très précis pour d'autres qui peuvent paraître un peu passés à l'as. Et en fait, pas du tout. Et du coup, c'est un peu aussi se rendre compte de finalement.
Il faut en sortir.
Ouais.
Enfin, il faut trouver un moyen d'en sortir.
Bah, c'est ce que j'allais dire. En plus, bon, alors ça, c'est une question, je pense, pour tous les commerçants ou créateurs de contenu, ou enfin, peu importe, mais qui ont un objectif plus fort, enfin, qui en fait, c'est un canal de communication. Est-ce que du coup, ça vous fait réfléchir à
autre chose,
un autre moyen alors, de communication,
même oui, si Instagram, oui, c'est absolument, voilà. Et d'autant plus que Instagram, enfin, pour moi, c'est très récent. J'ai créé un compte là, du coup, qui va être supprimé dans pas longtemps, un compte perso. Mais c'est l'enfer.
C'est pour ça.
Mais ça, mais ça, oui, mais ça te, ça avale ton cerveau. Il y a zéro réflexion. Le temps de concentration, il est limité à une poignée de secondes. Non, il faut sortir de ce. C'est enfer.
Passer à la radio, par exemple.
Voilà. Bah, c'est ce que j'allais dire.
Faut passer à la radio.
C'est une super visibilité.
Ou alors, il faut faire le pari d'un truc hyper vieillot, mais le papier.
C'est ce que j'allais dire. Vous n'aviez pas eu un peu de couverture médiatique à l'ouverture?
Non, il y a un article là qui est sorti dans Grabuge.
Ah oui.
Mais on va avoir notre propre papier.
Ok.
Oh.
Ça c'est une petite actu exclusivité.
Un newsletter. Tu peux en parler un peu ou pas?
Non, pas une newsletter, un papier, une journal, feuille pliée, ouais. Quelque chose avec un une livret. Programmation, voilà, un livret, des affiches. Revenir à quelque chose de comment dire, qui soit accessible pour le coup, parce que c'est pareil, Instagram, il y a des gens qui arrivent au bar et qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas de smartphone, ou alors qui ne savent pas l'utiliser, ouais, c'est pas un souci, ou qui ne veulent pas aller sur, enfin, juste, on va utiliser des moyens, parce que demain, Instagram ne fonctionne plus, comment on fait?
Ah oui, bah là, oui, c'est...
Bah, en vrai, on se rend compte, pour tout ce qui est événement culturel, ça fonctionne beaucoup aussi par l'affichage à Nantes.
Il y a des affiches partout.
Il y a des affiches partout dans la ville.
Mais tu vois, je me faisais la réflexion, là, encore aujourd'hui, j'ai découvert un autre agenda culturel sur Instagram. Je me dis, mais il y en a combien?
Ah non, mais ça, par contre, les agendas culturels...
Et en même temps, moi, je m'en sers. Mais moi, je suis très Instagram. Genre, je rejoins tout ce que vous avez dit, mais effectivement, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram. Mais par contre, c'est vrai que ça me permet de...
Mais typiquement, nous, sisters,
ça... Oui, bon, après, nous, on fait vraiment très peu de com.
Non, mais tu
qu'est-ce,
vois...
Qu'est-ce que tu voulais dire, c'est Yuna,
ce
là
qui... Non, mais c'est ce qui alimente aussi... Enfin, tu vois, par exemple, quand tu fais des... Quand tu crées des événements de musique, culturelle, etc., tu as des moyens de communication qui sont hyper divers. Enfin, finalement, si tu t'appropries le truc, tu vois. Quand tu as une émission de radio...
Oui. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas autant d'enjeux que... Mais bien sûr,
non. Enfin,
c'est
pour... On s'écouterait vraiment toutes parler et... Enfin, je sais pas.
Et pour conclure, du coup, sur la programmation, est-ce que tu peux nous refaire un peu l'actualité des prochaines programmations de novembre, décembre? Ça va jouer avec ta mémoire, là, de pouvoir nous faire
novembre,
un petit
décembre. Alors, décembre, c'est pas encore sorti, mais je l'ai en tête. Novembre, donc la semaine prochaine, on va recevoir Laris et Jomar La Discrétion pour un concert. Vendredi, ce sera Santissima Fuega pour un DJ set. Samedi, il va y avoir une très belle rencontre entre Miguel Vailon, qui a écrit un livre sur Frida Kahlo et qui parle là donc de la bisexualité de Frida Kahlo, dont on parle peu. Il y aura aussi présente Sara Velasquez-Orcel, qui est une historienne de l'art mexicain. Et il y aura Fernando González, qui est le président de l'association Comal des Mexicains de Nantes. Le soir, on va recevoir Solène Schumann, qui va nous faire un très beau concert, un solo, Carmen. La semaine d'après, si je ne dis pas de bêtises, on va arriver au 21, 22
Oui.
Oui, alors le 21, on va recevoir, je suis très heureuse de recevoir Gertie Dambéry, qui est une dramaturge guadeloupéenne, qui a traduit le recueil, ce Black Unicorn, la licorne noire pour les éditions de l'Arche. Donc c'est grâce à elle que j'ai eu accès à Audre Lorde. Et qui va nous faire une performance lecture qui s'appelle je ne me souviens plus. Il y a Rebelle, en tout cas, c'est sûr et certain. Et voilà, donc c'est pour parler de Sarah Maldoror, qui était une réalisatrice guadeloupéenne. Le 22, on reçoit Laurane Safo pour son nouveau roman jeunesse, la suite de Comme un million de papillons noirs. Et puis, on va en profiter pour parler de la biographie romancée de Toni Morrison, qui est sortie le 15 octobre, et de ses autres romans. On finit le mois avec le 28 un drag show avec de jeunes personnes queer et racisées. Et je suis très heureuse d'avoir cet espace pour elles. Quand l'une d'entre elles est venue me voir en me disant qu'elle voulait faire un drag show, je lui ai dit on est là pour vous. Trouve des personnes avec lesquelles tu pourrais performer. Et on met tout à disposition.
Trop bien.
Donc ça va être une première. On est très heureuses. Et le samedi, on va recevoir Eva Luna Tolence, la doula queer, Johanna Soria Benham Rouge et Tsepora Sidibé, qui, elle, a le compte Insta et qui fait aussi des podcasts qui s'intitule « Tant que je serai noire » pour nous parler d'un livre qui est sorti là en septembre, « Venir au monde ». Voilà, et les questions de justice reproductive. Et le soir, on va avoir un DJ set d'Abomé. Et on finit le mois comme ça.
Waouh, c'est riche.
Mais oui, mais c'est pour ça que ça donne trop envie. En fait, c'est hyper varié. Et en même temps, je pense que chacun, chacune peut s'y retrouver avec des envies, ou même de la découverte et de la curiosité que ça peut créer. Enfin, vraiment, je trouve ça trop chouette.
C'est ouf, je sais pas comment t'arrives à avoir toutes ces casquettes là. Enfin, quand même avoir un lieu, ça demande énormément de travail. Enfin, faire autant de programmation, de com, de. Enfin, c'est fou quoi.
Ouais, alors je rappelle que j'étais enseignante
et qu'on. Oui. Et qu'on, la charge de travail.
Voilà, et que j'enseignais
l'émission juste d'avant.
Le français, l'histoire, la géographie, l'UMC, voilà. Donc, oui, c'est juste,
C'est quelque chose que tu aimes bien, du coup, cette polyvalence
Oui. Oui, je trouve ça. Enfin, il y a des moments où c'est un peu. On a un peu charge mentale maximale, mais c'est tellement enrichissant. Et puis surtout, c'est l'idée de me dire que d'autres vont pouvoir récupérer, en fait, de ce qui sera dit, de ce qui sera fait. Et. En toute humilité, moi, j'essaie de tracer des sillons. Voilà.
Merci beaucoup. On va peut-être conclure avec une. Si vous avez des dernières questions, les filles, des choses qui vous viennent, ou sinon, moi, Julia, non, ça va. Moi, j'en ai une. Alors vraiment très simple, mais qu'on n'a pas dit depuis le début. Est-ce que tu peux rappeler les horaires et
les jours d'ouverture,
les jours d'ouverture, les soirs d'ouverture.
Oui.
Voilà.
Alors, la Licorne Noire est ouverte le mardi et le mercredi de 16h à 23h, le jeudi de 16h à minuit et le vendredi et le samedi de 16h à 2h du matin.
Super. Et donc, quartier
Cité des Congrès.
Cité des Congrès.
Voilà. Vous prenez le bus 4, vous marchez, vous prenez le vélo, vous allez en skate. Enfin, c'est accessible.
Tout à fait. Et si on n'habite pas à Nantes, c'est pas très très loin du périph.
Et il y a un parking. Moi, je sais que pour un couple d'amis qui ont des enfants avec des poussettes, ils étaient très contents d'avoir un bar avec un parking parce qu'ils avaient besoin de leur poussette.
Un parking pas loin. Oui, tout ce qui
est. C'est derrière le CIC. Oui, ouais. Oui.
Donc voilà, c'est vraiment hyper accessible.
Et ben merci à vous. On va conclure là-dessus. Non, j'avais une dernière question. Je n'arrête pas.
Vas-y.
Je sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à ça. Donc, ça se trouve, je vais te mettre complètement dans l'embarras. Mais tu as déjà donné beaucoup de recommandations, etc. Donc, c'est pas très grave. Mais je t'avais proposé de nous proposer peut-être une œuvre, un livre, quelque chose que tu avais envie de partager.
J'y réfléchis.
Ah, super.
On dit que c'est un roman qui est difficilement accessible. Bon, on s'y reprend et de toute façon, on a le temps. J'ai choisi le roman Paradis de Toni Morrison.
Très bien. Tu peux nous en dire quelques mots
ou... Bien, c'est l'histoire de 5 femmes qui vivent dans un ancien couvent à quelques kilomètres d'une ville qui a été créée par des personnes qui voulaient s'extraire du monde, de la saleté du monde, et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à être libre. Et évidemment, ça ne se passe pas bien, puisqu'elles sont trop proches de ces hommes qui aiment que les choses soient propres et bien ordonnées. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toutes, Enora, Julia, Yuna, et merci surtout à Laura pour sa présence. Évidemment, cet épisode sera à retrouver en podcast sur www.prune.net. On se retrouve le mois prochain pour la dernière de l'année 2025, le jeudi 11 décembre. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram.
Underscore Sisters l'émission.
Et vous voulez des stickers.
Et si vous ne voulez pas d'Instagram, bah évidemment, prune.net. Voilà. Et puis sinon, en direct sur la bande FM chaque deuxième jeudi de chaque mois de 21h à 22h. Merci à toutes, à bientôt et merci. Bonne nuit, bonne soirée.
Bonne nuit. Bye bye.
Ciao. Ciao.